Chapitre 10, tracé 2. Deux jours plus tard, Serge est assis dans un salon clair dont les fenêtres ouvrent sur un petit jardin frais. Autour de lui, peu de meubles, une console avec un très beau cendrier en pâte de verre, trois fauteuils Régence et une bibliothèque de même époque, des livres tous spécialisés, des iconographies essentiellement. L'ensemble, très neutre, pourrait laisser penser à la salle d'attente d'un médecin dans quelques quartiers huppés de la capitale. Serge est encore étonné de la facilité avec laquelle il a obtenu un rendez-vous pour rencontrer De Farago. Il a simplement téléphoné, et après avoir décliné son identité et sa profession, il a fait un rapide exposé de son projet. Envisageant la spécialité de ses activités de galériste, il a décidé de faire quelques sondages auprès de collectionneurs afin de voir si ceux-ci étaient portés vers des œuvres dont il aimerait s'occuper. De Farago n'a pas semblé surpris le moins du monde et il n'a pas cherché à savoir qui pouvait lui avoir adressé Serge. Ce dernier d'ailleurs ne s'était pas attardé au téléphone. En face de lui, l'homme est vêtu d'un pantalon gris et d'une chemise bleue. Les yeux sont presque noirs à force d'être bleus aussi. La peau est mate. Serge n'a pas prévu de plan pour cette rencontre. Il a décidé d'y aller à l'intuition. De toute façon, et c'est bien ce qu'il a fait tant rire ce matin alors qu'il se préparait et faisait le bilan de ce qu'il savait, il n'a pas tellement d'autres possibilités que celle de se laisser porter par les événements. Certes, il est à peu près certain que De Farago a été en contact avec Jason. Celui-ci n'a probablement pas menti à ce propos. Ou du moins, Serge ne parvient pas à trouver les raisons qui l'auraient poussé à le faire. Mais pour tout le reste, en l'occurrence, le possible rapport entre le couple De Farago-Jason et le manuscrit de Tichit, il n'y a rien. Rien de rien, des impressions, ça, oui, des intuitions que je baptise hypothèses pour que ça fasse plus sérieux, mais en fait, rien. Du vent, en quelque sorte, des chimères que rien ne peut accrocher solidement à la réalité des faits. Me découvre songe creux, moi qui ai toujours prétendu avoir les pieds sur terre. Faut-il qu'Adrien ait été convaincant pour que je prenne rendez-vous avec un parfait inconnu sur la seule base d'une histoire que j'ai pour ainsi dire montée de toutes pièces à partir du seul événement objectif dont je dispose et que tout le monde peut objectivement admettre, le vol d'une page de manuscrit. Si vous envisagez de vous spécialiser, dans quel domaine ? Serge est tiré de sa rêverie dans laquelle il commençait à s'abîmer, alors que De Farago décrivait par le menu les méandres des passions de tout collectionneur. Il faut que je vous remercie, d'autant plus d'avoir accepté de me consacrer une part de votre temps, alors que je n'en suis qu'au stade de la prospection. Ma galerie marche plutôt bien et je pourrais continuer sur ma lancée. Mais d'une part, j'aime innover et d'autre part, la profession évolue, vous savez. De nombreuses galeries s'ouvrent même si beaucoup disparaissent très vite. Quoi qu'il en soit, ce serait intéressant, me semble-t-il, de définir un créneau où puissent se retrouver de véritables collectionneurs. Les rencontres entre ceux qui achètent et ceux qui vendent doivent pouvoir se faire sans qu'il y ait d'obstacles majeurs. Or, l'obstacle par excellence, pour un galériste, c'est le manque de moyens. Vous me le conseillerez aisément. Donc, j'aimerais garder un éventail assez large, diversifié, pour que chaque client entrant dans ma galerie ait les chances de trouver l'objet qui lui convienne. Et par ailleurs, il me faudrait un domaine de prédilection qui satisfasse des connaisseurs prêts à s'investir. Et vous ne pensez à rien en particulier? Oh, il y a des domaines très porteurs actuellement. Les bronzes, par exemple. Je n'ai jamais eu de véritable goût pour ce type d'expression artistique, et ce n'est pas une question d'époque. Sans compter que la situation de ma galerie et ma surface élimine un certain nombre de possibilités. La statuaire néoclassique, en fait, tout travail de l'Ophite, du Cipolla ou de la Brocatelle, m'intéresse et j'ai quelques belles pièces actuellement. Mais de là à me spécialiser dans ce domaine, les contraintes d'espace sont trop importantes. Donc, vous voyez, je pencherai plutôt vers les miniatures du début du 19e, le moine en Rochard. Les travaux sur Vélin m'intéressent plus encore que ceux effectués sur émail. Ou alors, dans un domaine totalement différent, la gravure sur bois, et plus spécifiquement même les livres à figures. J'aime l'idée de cette association entre textes et images. J'ai d'ailleurs un livre d'heures superbement illustré, initialement acheté pour la galerie, mais je l'ai mis de côté. Il me serait difficile de le voir partir. Ah, c'est bien là le problème. Mais je suppose que je serai capable de me faire une raison si je fais le choix de cette spécialité. Quoi qu'il en soit, il faut que je prenne en compte mes propres goûts, mes connaissances et mes ignorances pour les confronter à ce que peut désirer une clientèle. Ça justifie encore plus, si besoin, la nécessité de ce sondage, disons, auprès d'amateurs éclairés. Je vous entends bien, mais n'est-ce pas toujours ainsi que procèdent la plupart de vos collègues? Dans une certaine mesure, oui, mais en dehors des galeries qui ont une longue histoire derrière elles, la plupart des autres évoluent tout de même en fonction de mouvements constatés du marché de l'art. En général, les vieilles maisons donnent un certain élan, mais ce sont les acheteurs surtout qui décident de ce qui va se vendre et donc de ce qu'ils vont eux-mêmes acheter. Or, vous savez très bien que le lien, la rencontre entre l'œuvre et le galériste doivent être forts. On ne vend pas bien ce qu'on n'aime pas. À la limite, on a presque piètre estime pour l'amateur dont on ne partage pas en partie les goûts. Il n'y a que dans le domaine de l'art, me semble-t-il, que les relations entre deux personnes puissent être presque totalement déterminées par la seule communauté du jugement esthétique. En effet, oui, c'est bien pour cela, par exemple, que moi-même, je n'entre jamais dans un certain nombre de galeries. Des fois, c'est dommage parce que je passe à côté de belles choses. Oui, c'est certain, mais en même temps, le collectionneur n'a pas envie de se disperser. La multiplication des galeries a un gros inconvénient pour nous, même si à première vue et à court terme, ça semble avantageux. On s'éparpille, en effet, on se laisse distraire par des œuvres qui nous séduisent. J'ai un ami qui s'est déplacé en Italie pour une mosaïque murale qui avait fait l'objet d'une transaction laborieuse, et qui est rentré avec une lampe bureau de style Liberty. Ah, il était enchanté, mais ça a duré 15 jours. Maintenant, il ne cesse de regretter et cherche à la recaser pour revenir à ses vrais amours. Et pour nous, la vente d'une chose signifie souvent la nécessité du rachat d'une autre, dont on n'a pas forcément envie. C'est la loi du commerce, ça. Mais il est vrai qu'en disposant de beaucoup, trop peut-être, de sources, nous dévoyons souvent notre passion, on devient consommateur en quelque sorte. Oui, c'est bien le mot puisqu'on achète ce qu'on n'aurait pas acheté en temps ordinaire. On sait qu'on va se lasser de l'objet parce qu'il est une fausse réponse à notre désir et c'est autant d'argent détourné de notre passion véritable. C'est même un détournement du désir en fait. Vous savez, les collectionneurs ont souvent des obsessionnels. Ils achètent en général avec méthode, ordre, avec obstination. Il ne faut pas l'oublier, avec parcimonie. C'est parce qu'ils ne font pas d'épargne sur le dos de leur passion qu'ils mettent justement une telle minutie dans la recherche de l'objet de leur désir. Et parfois, dans leur quête, ils se laissent charmer par autre chose. Alors une galerie qui offrirait un éventail de réponses cohérentes par rapport à cela vous semblerait donc tout à fait inutile. Non, 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 non. Non, 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 non. Une galerie qui offrirait un éventail. Numéro 1. Une galerie qui offrirait un éventail de réponses cohérentes par rapport à cela vous semblerait donc tout à fait utile? Je crois que vous avez visiblement beaucoup réfléchi à la question, mais croyez-vous possible et surtout souhaitable de créer les conditions qui reviendraient dans une certaine mesure à canaliser encore un peu plus les goûts des gens? Oh, attention, il ne s'agit pas d'une entreprise systématique de rationalisation des passions, non. Je pense plutôt à la mise en place d'un espace qui répondrait de certains désirs, désirs de tableaux, de boîtes à musique, désirs de livres ou de médailles. Pour moi, une galerie, c'est un engagement en faveur d'un intérêt, disons, esthétique. Mais les engagements n'ont jamais fait vivre quand ils se font dans ces termes-là. C'est pour cette raison que je n'envisage la spécialité et la spécialisation que si je parviens véritablement à cerner, au moins de façon approximative, les comportements en matière de goût des collectionneurs. Oh, vous avez les pieds sur terre? Bien obligé, ma galerie c'est mon œuvre et c'est mon capital. J'aime assez votre regard sur le marché de l'art, sur les rôles respectifs des professionnels et des collectionneurs. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Des deux côtés, on peut faire des rencontres fabuleuses, parce qu'on a affaire à des gens habités par leur passion, mais on découvre aussi des individus qui se servent de l'art juste pour cacher leur âpreté au gain. Vous comprenez combien, dans ces conditions, on peut apprécier une démarche comme la vôtre. Ça ne veut pas dire pour autant que la situation évolue et continuera nécessairement de le faire dans le sens que vous évoquez. Serge, tout au plaisir de cette conversation avec De Farago, a quelque peu oublié la raison pour laquelle il a cherché à rencontrer le collectionneur. Là. Numéro 2, reprendre à la dernière réflexion de celui-ci, un peu plus haut. La dernière réflexion de celui-ci le ramène d'une certaine façon à son problème, mais il ne sait pas comment il pourrait s'y prendre pour aborder le sujet. Avec le recul et ce temps de discussion, Serge ne voit plus sa démarche sous le même jour. Elle lui semble absurde même, tant il dispose de trop peu d'éléments pour la justifier. Et De Farago lui est sympathique. C'est un homme intelligent, avec des raisonnements trop fins pour être ceux d'un arriviste sans principe. Il ne se prend pas au sérieux, mais tient à ses idées. Et Serge apprécie son ton posé presque autant qu'il aime malgré lui la fougue souvent exagérée des discours, de longs monologues souvent de son frère Adrien. Il regarde sa montre. « Ah, monsieur de Farago, je ne voudrais pas abuser plus de votre temps. »« Mais certes, j'ai beaucoup à faire, mais venez au moins jeter un coup d'œil sur ma collection. Parce que, si je ne me trompe, vous êtes tout de même venu dans le but d'apprendre l'objet de ma passion. Et je ne vous l'ai toujours pas dit. » Oh, ce sera avec plaisir. Je vous suis. Les deux hommes quittent le salon. Le bureau dans lequel ils pénètrent est une immense pièce avec trois bibliothèques qui encadrent une lourde table de bois dont le style évoque plus une utilisation dans la cuisine d'un château que dans une pièce destinée à l'écriture et à la lecture. Voilà mon musée personnel. Derrière les portes vitrées des bibliothèques, sur les fauteuils, par terre en piles bien rangées, Il y a là des centaines d'ouvrages et de revues. Tous, du moins, c'est ce qui semble à Serge, sont consacrés à la généalogie. Revues internationales et nationales, traités, guides, romans aussi, pas un texte ne semble consacré à autre chose. De Farago entraîne Serge vers une des bibliothèques. « Vous trouverez ici ma collection, proprement dite. Je vais essayer de remonter le plus loin possible dans l'histoire de la généalogie, et je suis particulièrement fier de ce petit opuscule français, début du XVIIIe siècle. Oh, ce sont les premiers pas, quelque peu conséquents, de cette nouvelle science pour l'époque. Ah, j'ai aussi un des ouvrages de William Dugdale et un traité de Christopher Gatterer. » Et de Farago désigne du doigt tel ouvrage, frôle d'eau de cuir de tel autre. Parfois, il sort un livre des étagères et l'entr'ouvre, le feuillette doucement sans dire un mot, puis le repose. Serge est fasciné par l'air recueilli que le beau visage de cet homme prend alors. Il ne lui pose aucune question, tout à l'écoute des chemins de la passion à l'œuvre. Il sent en De Farago une formidable conviction, un élan puissant qu'il attache à ses livres, et au-delà de ceci, aux histoires des hommes qui naissent et meurent en se transmettant un nom autour duquel se cristallise leur identité. Bon, vous savez, j'ai abordé ce domaine dans une grande innocence. Je n'avais a priori aucun goût pour la généalogie. C'est une grande tante, oh, tout le monde l'évitait tant elle barbait les uns et les autres avec ses histoires, toujours les mêmes, et qui n'évoquait pour nous qu'un passé inconnu. C'est cette grande tante qui m'a conduit malgré moi à la généalogie. Un jour, pour fêter ses 95 ou 96 ans, je ne sais plus bien, je lui ai offert un de ces dessins naïfs en forme d'arbre avec des médaillons qu'il fallait compléter, une table d'ascendance, comme on en propose parfois aux enfants. Elle avait reçu des tas de cadeaux, un châle du cachemire, un collier, une superbe loupe, parce que sa vue défaillante l'empêchait de lire les caractères trop petits. Oh, toute la famille était là, dans un joyeux brouhaha autour de la table, chargée de cristaux et de fleurs, et elle était comme isolée au milieu de tous, regardant l'arbre généalogique, les larmes au bord des yeux. À un moment, elle a levé la tête et nos regards se sont croisés. « Tu m'aideras, mon petit Yannis, dis, tu m'aideras » a-t-elle murmuré. Mais le lendemain, elle est tombée malade, elle est morte quelques semaines plus tard. Serge ne dit mot. Et De Farago, après un long silence, reprend. « Alors j'ai commencé à acheter quelques bouquins. Je ne savais rien de la généalogie. Et très vite, c'est l'histoire de cette discipline qui m'a passionné. Selon les pays, elle peut être très différente. En Angleterre, par exemple, et en Allemagne, les généalogistes ont beaucoup étudié à partir des travaux de la biologie et de la génétique. C'est une science, vous comprenez. » En France, par contre, c'est vite devenu un commerce. Comment ça, un commerce ? De Farago se retourne vers Serge. Tenez, lisez ça. Il s'agit d'un article tout récent sur la Mongolie. Saviez-vous que les Mongols commencent tout juste de retrouver le droit de porter un nom de famille ? L'indépendance de la Mongolie extérieure au début du XXe siècle a été suivie d'une succession désastreuse d'événements qui ont tous conduit, directement ou indirectement, à l'éviction des patronymes. Vous imaginez, plus de 60% des gens ignoraient tout de leur nom de famille dont l'usage avait été interdit en 1925 par le régime bolchevique. Bien évidemment, ils portaient un prénom, souvent le même d'ailleurs, au nom de la nécessité d'effacer toute trace de féodalisme. Vous vous rendez compte du travail de clarification des identités qu'il faut maintenant mener pour établir des états civils dignes d'une démocratie ? Sans compter que dans certaines régions, la consanguinité est très forte et pour cause. Les hommes et les femmes ne sachant rien des patronymes de leurs aïeux. Vous avez l'air au fait de la question. Oui, cette histoire me passionne en effet. Et derrière le problème du nom, c'est celui des langues, des écritures, de la littérature qui est soulevé. Il paraît qu'au début des années 90, quand les Mongols ont reconquis le droit de porter un nom, ils ont voulu en grande majorité prendre le nom, celui de Gengis Khan. Il y a ainsi des milliers de Bangigons, de loups bleus. Maintenant, on envisage d'inventer des patronymes pour distinguer les tribus, les fratries, les clans, les familles. Un nom pour l'identité d'un homme. Le Farago achève ces derniers mots d'un ton rêveur. Ils ont fait le tour de la pièce et Serge est convaincu maintenant que si la généalogie est bien la passion de son hôte, il y a derrière celle-ci beaucoup plus que l'intérêt d'un érudit. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Serge interrompt le songe du collectionneur. Je vais vous accompagner. J'ai passé un excellent moment, mais je ne sais pas si je vous ai été vraiment utile. C'est le risque avec les gens qui ont un hobby. Ils parlent et oublient en grande part leur interlocuteur. Ce sont des solitaires que leur passion suffit à combler et le dialogue bien souvent n'existe qu'entre eux et celle-ci. Dehors, des bouts de soleil sont accrochés aux angles des immeubles et se traînent paresseusement dans l'eau des caniveaux. Serge, mon vieux, j'ai l'impression que tu devrais revoir le petit Jason. Ça finit peut-être par faire beaucoup de coïncidences, toutes ces intuitions à propos des relations entre lui et de Farago. Pourtant, ce type est impur, j'en mettrais ma main au feu. En tout cas, il semble rudement au point sur les questions de généalogie. Mais pourquoi aurait-il pu vouloir faire l'acquisition, surtout dans ces conditions, d'un manuscrit d'un intérêt, somme toute relatif même pour cette région de Mauritanie? Non, décidément, je n'en vois pas. Cependant, en un geste familier, Serge remonte le col de son blouson. Le repérage des ancêtres renvoie toujours au repérage de sa propre identité. C'est Adrien qui a dû me dire cela, ou quelque chose d'approchant. Chapitre 11, Le parfum de la mémoire. Ce soir, Jason traîne du côté du quartier latin. Il n'a pas envie de sa solitude. Il n'a pas le désir de la compagnie habituelle. La journée chez le sage a été pénible. Le patron de mauvaise humeur n'a pas cessé de rouspéter, se plaignant des uns et des autres. Les clients ont été rares et l'un d'entre eux s'est montré franchement désagréable avec Jason quand il a légèrement rayé le cadre d'un tableau en l'installant sur le siège arrière de la voiture. Et puis, surtout, le manque d'argent devient difficilement gérable pour Jason, qui a négligé de longues semaines durant ses habituels démarchages personnels pour se consacrer exclusivement à la commande du manuscrit de Tichy. Il n'a pas eu l'idée de diminuer son train de vie et, comme l'affaire a tourné court, il se retrouve dans une situation délicate, avec un document dangereux pour lui et dont il ne sait quoi faire. Il lui semble avoir fait le tour de toutes les possibilités qu'il a de le revendre, et ça s'est soldé par un échec. Il a bien essayé d'en analyser les raisons les plus diverses, mais il retombe toujours sur le même constat. Ce feuillet a fait parler de lui trop, de l'avis de la poignée de spécialistes qui auraient pu s'y intéresser. Si encore il avait dérobé le manuscrit dans son intégralité, là, avec cette page unique, il ne peut trouver preneur, tant le risque est disproportionné par rapport à l'intérêt de ce seul papier. Son client avait des raisons bien précises pour le vouloir, mais Jason ne s'était pas donné la peine de les connaître. Alors il est maintenant dans l'impossibilité de le recontacter, à moins de transgresser la règle absolue de ce commerce, ce qu'il mettrait définitivement sur la touche, et il se retrouve avec quelque chose qui ne présente plus du tout la même valeur pour d'éventuels autres amateurs. Il a fallu aussi que sa copine l'appelle, et il a dû subir tous ses reproches en silence. C'est pas le moment de se la mettre à dos, il risque d'avoir besoin d'elle très vite, s'il est contraint dans les jours à venir de quitter un peu précipitamment son logement. Le matin même, il a reçu une nouvelle lettre de rappel, le téléphone n'ayant pas été payé depuis 2 mois. Bref, les lampions et les odeurs de nourriture dans le dédale des petites rues ne parviennent pas à calmer ses inquiétudes et lui donner la moindre raison d'être content de lui. Quelques rues plus loin, Serge se promène. Il a renoncé à son blouson tant l'air est doux. Il marche en pensant à sa rencontre avec de Farlago. Adrien lui a téléphoné aujourd'hui et Serge lui a longuement raconté son entrevue. Adrien a manifesté un intérêt très vif, voulant tout savoir, exigeant les répliques dans leurs détails et leur intégralité. Il a fallu que Serge répète, précise, recommence. Adrien semblait complètement excité et il a raccroché en disant qu'il rappelait dans 1 heure. Bien évidemment, ce n'est que 4 heures plus tard que le téléphone a de nouveau sonné. Adrien avait sa voix autoritaire des grands jours, celle qu'on ne discute pas, et Serge a été surpris par sa propre attitude de toute écoute et d'obéissance, comme s'ils étaient enfants, et qu'Adrien, sortant d'une période d'isolement, se mettait à donner des ordres à ses frères, à tout régenter, en n'admettant aucune contestation. Serge avait mis longtemps à lui pardonner ce trait de caractère, et même s'il en comprend les raisons dans les circonstances présentes, il s'est d'abord senti hérissé par le ton utilisé par son frère. Oh, je l'adore, mais qu'est-ce que j'ai envie de lui rentrer dedans parfois? Le temps a beau passer, je supporte pas qu'il me commande. Serge sourit. Il avait, malgré son agacement, attendu le deuxième appel, et celui-ci avait été riche en nouvelles. Adrien avait travaillé avec Abidine sur les listes de patronymes qui constituaient l'essentiel du manuscrit de Tichit, ou du moins de ce qui en restait. En faisant l'inventaire attentif des listes, Abidine avait évoqué le cas de certains patronymes dont on se souvenait mais dont l'usage était tombé peu à peu en désuétude dans la région. Les familles concernées avaient bien gardé le souvenir et la trace du nom de leurs ancêtres, mais elles-mêmes ne l'utilisaient plus guère. Ce qui avait frappé Abidine, c'est que ces familles avaient un point commun, au moins un ou deux de leurs membres de la génération précédente s'étaient exilés, et ceux qui étaient restés n'avaient pas de nouvelles. Serge se souvient. C'est exactement en entendant ces remarques qu'il a compris de façon brutale et lumineuse le rapprochement qu'il n'avait fait qu'imaginer jusqu'ici entre le client de Jason et la disparition de la page du manuscrit de Tichit. Impatient de pouvoir réfléchir tranquillement aux perspectives qui semblaient pouvoir s'ouvrir à partir de l'information donnée par Abidine, il avait simplement suggéré l'hypothèse d'une concordance entre le vol et l'identité de De Farago. Adrien avait tout de suite repris l'idée à son compte, et Serge, tout à sa découverte, n'avait même pas songé à lui reprocher cette appropriation. Après le ton autoritaire, elle venait à point déposer une touche supplémentaire qui complétait le portrait d'Adrien tel que Serge l'avait gardé en mémoire. Portrait qui relevait plus en grande part de l'imaginaire de l'enfant qu'avait été Serge que de la réalité de ce qu'était devenu Adrien. « Petit con !» pensa Serge en raccrochant. et il y avait dans ses mots une grande tendresse, colorée d'une insoupçonnable pointe de jalousie. Serge passe devant le petit restaurant devant lequel il avait discuté toute la soirée avec Jason et ses amis quelques jours plus tôt. Visiblement, Jason n'est pas encore arrivé, mais de toute façon, Serge n'a aucunement l'intention de l'aborder ici. Trop de monde, des gens qu'il connaît. Il risque de faire le petit coq devant eux. J'ai l'impression que je vais devoir le secouer un peu pour qu'il me dise tout ce qu'il sait. Je suis convaincu que c'est bien le Farago qui voulait faire l'acquisition de ce manuscrit et que c'est bien Jason qui s'en est occupé. Oh, ça a suffisamment duré. Il va falloir qu'il parle, le petit Jason. Dans la rue, les gens déambulent comme s'ils avaient l'éternité pour horizon. Paradoxalement, Serge est pris aussi de cette nonchalance propre aux gens qui sont tout occupés de la vacuité du temps et donnent vacances à leurs soucis. Pourtant, derrière son indolence affichée, il sent un curieux mélange fait de l'excitation et de la grande tranquillité que connaissent les gens qui se savent tout près de leur but. Quelques centaines de mètres plus loin, Jason, insupporté par le bruit et le mouvement, se dirige vers l'île de la Cité. Sur la place Notre-Dame des Oiseaux font de grands vols étalés au-dessus des pavés, et les nuages grimpent en imaginaires collines à des hauteurs indéterminables. Jason avance vers la rue de Saint-Louis en Lille. Le vent froisse la Seine. Sur le pont, un saltimbanque ralentit ses gestes disloqués pour retenir un public incertain qui surveille le ciel devenu menaçant. À la terrasse, des cafés, touristes et habitués se côtoient sans se mêler. Ils se juxtaposent dans un même élan de convention qui veut que les premiers aiment à penser qu'il y a probablement parmi les seconds quelques Parisiens authentiques et célèbres, et que les seconds aient besoin que les premiers soient le miroir qui renvoie le reflet de l'intelligence, de la beauté, de l'authenticité dont ils estiment être les modèles naturels. Il y a dans ce triangle que font les trois cafés à Auvent, rouge plutôt, plus de snobisme que dans la totalité des lieux les plus huppés de Paris, parce que les hommes et les femmes jouent ici constamment une pièce dont l'auteur est absent, une pièce pour laquelle il n'y a pas d'auteur. Les touristes frissonnent de ce que leur regard peut croiser celui d'un Parisien, d'un vrai Parisien, de ce qu'un de ces derniers puisse même avoir le désir de regarder l'un d'entre eux qui serait ainsi élu et par là même différencié du troupeau des anonymes. Quant aux familiers de ce lieu, ils jouissent de ce qu'ils offrent de par leur simple présence, et ici cette familiarité en spectacle alors qu'ils affectent un total désintérêt pour de telles considérations. Serge s'installe à la terrasse d'un café et allume une cigarette. Il songe aux quelques mois qu'il a passé dans la ville de B, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Pour épater une fille, il lui donnait rendez-vous juste avant l'heure d'aller au lycée dans le bar de l'hôtel le plus chic de la ville. Il buvait un café, elle le fixait avec des yeux immenses qui parlaient de bien au-delà de ce qu'il était capable de concevoir, et lui fumait des cigarettes blondes très fines, qui avaient un goût douceâtre, qu'il détestait, mais jugeait indispensable au cadre. Il regardait sur un pied d'égalité les hommes et femmes venus prendre ici un petit déjeuner pour parler affaires, n'ayant même pas conscience de ce qu'il pouvait passer pour leur fils et de ce qui n'était pas à sa place ici. D'ailleurs, il ne songeait plus à son rôle dès qu'il avait franchi la porte du bar, en tenant la fille par le coude avec une autorité affirmée. Il suffisait alors qu'il rencontre un copain de classe, se dirigeant lui aussi vers le lycée de l'autre côté de la place, pour qu'il oublie aussitôt sa compagne, qu'il traitait avec négligence, alors qu'il savait avoir été vu avec elle alors qu'il sortait de ce bar. Serge sourit des souvenirs qu'il a de cette époque. La fille qu'il courtisait, elle s'est mariée, oh, il y a longtemps déjà. Elle a probablement des enfants. Il l'a perdue de vue et songe qu'il ne se reconnaîtrait même pas s'il se croisait aujourd'hui. Serge ne se lasse pas du ballet codifié qui se déroule sous ses yeux. Il a bien repéré quelques belles, mais il n'a pas envie de tenter une approche, tant il se sent autre depuis son retour de Mauritanie, depuis ce voyage avec Adrien, depuis sa rencontre avec le Farago. Le monde lui semble déplacé, en décalage, par rapport au lieu qu'il occupait auparavant. Posture instable et inhabituelle, élancements à la poursuite d'ombres non identifiées. Serge ne sait ce qui des choses de lui esquisse des déséquilibres et des troubles, ne laissant place à aucune des évidences qui balisaient jusque-là son existence. Soudain, parmi la foule des badauds qui se disloquent sur le pont Saint-Louis, Serge aperçoit Jason. Il appelle le garçon de café et règle sa consommation. Il n'a pas réfléchi à ce qu'il voulait faire et attend que Jason traverse le pont et s'engage sur le quai de Bourbon pour se lever. Il le suit alors, remarquant au passage combien le ciel s'est assombri encore. À moins que ce ne soit les arbres, pense-t-il, en laissant Jason marcher quelques mètres devant lui. Il avance sur le trottoir de gauche, le long du parapet, en bas duquel les eaux de la Seine roulent lourdement leurs masses carrées noires, nées du passage lumineux d'une péniche pleine de musique et de bruit d'assiettes. Mais quelques pas plus tard, Serge interpelle Jason. Jason se retourne inquiet, puis soulagé en reconnaissant Serge qui l'attend. Les deux hommes se trouvent à la pointe extrême de l'île, sur une sorte de petite place occupée de bancs déserts. « Ah, ça tombe bien, je voulais te voir, j'ai envie de te parler. » Jason hésite. « Ah oui, et qu'est-ce que tu as à me dire ?» Serge sent que Jason vient de se trahir sans le vouloir. Il s'est immédiatement cru interpellé malgré la formule anodine de Serge. Il n'a pas pensé un instant que Serge avait envie de profiter de la rencontre pour parler, tout simplement. Écoute, on en vient directement au fait. Ce sera plus simple pour toi comme pour moi. Mais je ne te fatigue pas. Moi, j'ai des questions à te poser et j'ai bien l'intention que tu y répondes. Oh, rien t'autorise à me forcer si j'ai pas envie de te répondre. Jason. Dans ton intérêt, tu vas me dire ce que je veux savoir et rapidement. Il n'y a pas de m'aider cette fois encore pour t'aider à sauver ta peau. Pour parler clair, tu choisis. On va chez les flics, là, tout de suite, tous les deux, et j'expose mon histoire. Je te rappelle que j'ai été sympa il y a quelques années, mais il ne faut pas en abuser. Ou tu te confies sans tricher. Jason regarde à droite, à gauche. Le cadre que forme le quai de Bourbon est désert, et l'on entend le brouhaha de la foule. Il n'y a pas l'ombre d'un passant par ici. Ben, j'ai rien à confier, moi. C'est vrai, bon, j'ai fait une connerie avec le tiroir caisse, mais c'était il y a longtemps, c'est de la vieille histoire. Et puis pourquoi tu me cherches des noises maintenant? On est des copains tout de même, non? Oh, tu sais, des copains comme toi, j'évite. Je ne te veux pas de mal, mais je veux des renseignements, et pour les voir, je suis prêt à faire ce qu'il faut. Jason a reculé progressivement dans l'angle le plus profond de la petite place, et il a maintenant le dos collé au parapet. Serge est face à lui, tranquille, bien appuyé sur ses jambes, et il n'espère qu'une chose, pouvoir coller quelques baffes à Jason qui commence à transpirer. La menace des flics, Serge sait qu'il ne pourra pas la mettre à exécution. C'est trop contraire à ses principes, et puis il est convaincu que ça ne fera pas avancer les choses. Il n'a que des soupçons, il n'a aucune preuve. Il veut retrouver le manuscrit de Tichit, il veut le rapporter directement à Abidin. Ainsi la boucle sera bouclée, et c'est ainsi que les choses doivent se faire. En face de lui, Jason n'emmène pas large. Le teint plombé, il essaye de donner le change, mais sans y croire. Alors là, je comprends rien, on se retrouve après des années, on prend un pot ensemble, on passe une soirée à discuter entre copains, et là tu me menaces je sais quoi. Oh, si tu crois que... Réponds à mes questions, c'est tout ce que je te demande. Et pourquoi je répondrai à tes questions? Et alors, quelles questions? Ben, justement, la première. Qu'est-ce que c'est la marchandise dont tu m'as parlé et qui te reste sur les bras? Allez, réponds! Serge se rapproche encore de Jason. Tu veux que je t'aide? Serge tente le tout pour le tout. Tichit, ça te dit quelque chose? Allez, dépêche-toi, j'ai pas beaucoup de patience. Je reviens d'un petit voyage de quelques milliers de kilomètres, alors tu comprends. Et le vieux Abidin n'a pas envie d'attendre plus longtemps. Ce que tu racontes, je comprends rien à tes histoires. C'est toi qui vas en avoir des histoires. Là, tu vois, ton affaire est d'une autre pointure que celle du tiroir caisse, et je risque d'être moins magnanime que la dernière fois. Mais, pas de mais, je veux des faits. Je passe à la seconde question. Ça te sera peut-être plus facile. De Farago était bien ton commanditaire pour la marchandise. Tu vois, oui ou non? Le ton ne laisse guère d'espoir à Jason. La nuit est tombée. Serge a bien une tête de plus que lui. Jason commence à paniquer. Il a toujours été assez coire face aux bagarres possibles. Serge le sent prêt à craquer. Alors? Oui. Ah ben tu vois, c'est pas difficile. On revient à la première question. La nature de la marchandise dont il n'a pas pris livraison. Bon, tu sais, il collectionne des trucs, alors tu vois, moi... J'ai juste été l'intermédiaire. Et... Arrête tes conneries. Je sais que le Farago est collectionneur. Qu'est-ce que tu devais lui apporter? Bon, rien, juste un document, ça n'a pas vraiment de valeur. Et tu l'as eu où, ce document sans grande valeur? Ben, je connais un gars... Qui... Ne recommence pas à baratiner, Jason. Où? Ben, ça vient d'un manuscrit ancien, mais c'est pas d'ici, hein. C'est peut-être même pas authentique, ça vient de chez les négros, et avec eux, oh, on sait-je. Le coup est arrivé si brutalement que Jason n'a pas eu le temps ni de finir son mot, ni de fermer la bouche. Le deuxième coup le cueille alors qu'il tente de revenir de sa stupeur. Bon, celui-là c'est pour le bougnoul, tu te souviens? Mais ça va pas, t'es fou ou quoi? Jason est au bord des larmes, il renifle. Ne pisse pas en plus dans ta culotte, garde ton énergie pour me raconter. Allez, quel manuscrit? Où? Quand? Où? Et si tu n'es pas trop con, tu peux même me dire pourquoi pendant que tu y es. Jason, qui s'était affaissé au pied du parapet, se redresse doucement, le bras en défensive devant le visage. De Farago voulait un manuscrit. Il suivait depuis le début cette histoire de bibliothèque du désert. Il m'a demandé si je pouvais lui procurer un de ses livres. Alors, je suis parti en Mauritanie et... Ah, doucement, doucement. Commence par le début. Je veux tout savoir, en détail et dans l'ordre. Tiens, viens, il y a des bancs, on va s'asseoir. Et fais pas l'imbécile, je cours vite. Il se dirige vers un banc. Une silhouette apparaît sous les arbres, suivie d'une autre. Une femme qui promène son chien. Serge perçoit le parfum qui la précède. Il la suit de regard. Elle avance doucement, distraite. Des étoiles poudroient le ciel, plus loin, au-dessus de la Seine. Les bruits de la nuit sont retenus, suspendus sitôt ébauchés. Serge attend qu'il retombe. Ça fait un long silence palpable à l'étoffe lourde ouatinée. Alors, Jason parle. Il raconte les petits trafics en sous-main, court-circuitant son patron, le carnet d'adresses qu'il a fini par se constituer et la grande affaire de sa vie amorcée il y a des mois. Les contacts avec De Farago, la préparation de son voyage sur Tchit et le prétexte des vacances à prendre pour expliquer son absence. Il raconte toutes les difficultés qu'il a dû surmonter, les risques qu'il a pris, le retour sur Paris avec dans sa poche le feuillet volé, puis l'échec de la transaction dont tous les termes avaient été fixés avant le départ. Et insensiblement, il est passé du récit à la plainte et à la dénonciation de l'abus dont il est persuadé qu'il est l'unique victime innocente. Serge est écœuré de ses confidences qui disent tout de la veulerie de ce voleur minable, de cet homme sans principe qui geint de ce qu'on puisse le traiter comme tel. Jason a fini par se taire, épuisé, sans ressort, après avoir dévidé le fil de ce qu'il considère comme une injustice scandaleuse, source de tous ses malheurs. « Bon, on y va. On va où ?»« Chez toi. »« Mais pourquoi ?»« Ben, je récupère le document, je vais le remporter là où tu l'as pris. »« Et moi ?»« Quoi, toi ?» Et l'argent? Quel argent? Je crois que tu ne m'as pas bien compris, mon petit Jason. Tu vas me donner le manuscrit et tu vas rester bien sage en te faisant discret. C'est ce que tu as de mieux à faire, je te préviens. Tu as tout intérêt à ne pas faire d'entourloupe. Il y a beaucoup de monde qui aimerait bien t'entendre et ça ne pourra t'apporter que des ennuis. Ce document va repartir à Tchit. Même si je dois d'abord pour cela te flanquer une raclée que tu n'oublieras pas de sitôt. Quelques heures plus tard, rue Saint-Honoré, Serge donne à la porte de Farago. Il a à peine dormi après avoir abandonné Jason à ses lamentations. La page du manuscrit était glissée entre deux catalogues de chez Christie's. L'appartement faisait négligé, mais Serge y a remarqué quelques beaux meubles, 18e siècle de style, anglais, et des bibelots en nombre trop important pour justifier leur fonction décorative en ces lieux. Arrivé chez lui, Jason a bien tenté une ultime négociation pour obtenir ce qu'il appelait une compensation en échange du feuillet, mais l'attitude de Serge ne lui a guère laissé le temps de développer son argumentation. Tu t'en tireras bon compte, hein? Tu as intérêt à en avoir conscience. Mais je serai toi, je garderai ça en mémoire. Des fois que l'histoire se répéterait, il vaut mieux que tu en aies tiré des leçons. Les trottoirs ont été lavés de frais, ils flottent dans l'air un parfum de printemps timide et hésitant, même à l'odeur des premières bouffées de cigarettes échappées de la brasserie d'à côté. Serge n'a pas eu à insister pour obtenir un rendez-vous d'urgence avec De Farago. J'attendais votre appel. Oui, venez le plus tôt possible, je vous expliquerai. Serge n'avait pas cherché à en savoir plus sur le moment. Sitôt rentré chez lui, il avait réservé une place d'avion pour Nouakchott et voyant qu'il disposait en matinée de quelques heures avant son départ, il avait tenté sa chance auprès de Farago. Entrez, allons directement dans le bureau. Serge suit le collectionneur et se retrouve dans la pièce aux bibliothèques. Vous vouliez me voir, j'ai beaucoup réfléchi depuis notre précédente conversation. Serge n'a pas encore prononcé un mot. Me permettez-vous de vous raconter une histoire? Vos heures sont précieuses, je le sais. Vous m'avez dit lors de votre très tardif appel que vous partiez aujourd'hui en Mauritanie. Eh bien, mon histoire part de là-bas, justement. Il est juste qu'elle m'y ramène, mais ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. Il m'a fallu du temps. Votre venue a joué un grand rôle aussi, celui de catalyseur, en quelque sorte. On peut effacer les traces écrites de son passé, la mémoire demeure. Moi, je voulais deux choses impossibles et contradictoires. Après avoir changé de nom pour couper tout lien avec mon passé, j'ai voulu posséder des signes matériels attestant de la réalité de ce même passé. Les deux hommes sont assis de part et d'autre de l'énorme table de bois qui fait fonction de bureau. Mais pourquoi avez-vous changé de nom ? Pour une double raison douloureuse, invivable, du moins, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Mais fuir ce que l'on est impossible, c'est encore plus impossible de vivre avec l'idée que l'on a effectivement choisi la fuite. Il faut jouer un rôle, se composer les attitudes. La confusion entre réalité et fiction devient telle. Oh, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai été reçu par la grande bourgeoisie et la noblesse qui ont vécu toute leur vie au milieu de beaux objets. On ne m'a jamais assimilé aux nouveaux riches produits par la bourse ou le net. C'est comme si j'avais toujours fait partie de ce monde. Et vous savez où je suis né ? À Lekcheb, près de Tichit. Mon nom, mon vrai nom, me semblait ne désigner que cela, mon pays. Et mon pays, pour ces gens, vous comprenez. Puis ce nom, oh, mon nom, dit aussi l'infamie, celle de mon père. Je ne pouvais pas vivre avec elle, je ne pouvais pas la porter. Alors un jour, j'ai voulu tout effacer. Mon père, mon pays, mes origines. J'ai quitté très jeune ma famille, je suis parti pour la France. J'ai changé de nom, je me suis fait un nom ici, un nom qui a fait taire tout le passé. Mais le passé est têtu. Depuis des années, il revient sans raison extérieure, objective. Non, il est revenu tout seul et peu à peu, il m'a occupé l'esprit. Il m'appelle. C'est peut-être l'âge, simplement, mais je ne crois pas. Tout ce que j'ai voulu taire s'est mis à faire de plus en plus de bruit. Personne n'est au courant, on dit juste que je deviens plus absent, que je suis de plus en plus occupé de ma seule passion, la généalogie. Mais c'est seulement mon passé qui reprend sa place. Alors, c'est simple. Un jour, j'ai pris conscience de l'intérêt que le monde des historiens, des collectionneurs, des amateurs d'art portait aux manuscrits anciens que l'État mauritanien redécouvrait dans les vieilles cités longtemps oubliées de l'Adrar, entre les déserts de Majaba, Tel Koudra et d'Aouker. Je me suis souvenu que ma mère me parlait toujours du Ksar de Tichit. Son propre grand-père y était mort alors qu'il assurait la conservation des manuscrits de la ville. Elle racontait qu'il lui avait un soir lu la liste des noms des femmes et des hommes qui composaient notre famille. Elle décrivait avec admiration le recueil des en-têtes, la calligraphie rouge sombre et surtout, elle parlait sans cesse du troisième feuillet, celui sur lequel figuraient les patronymes de notre lignée. C'est un peu d'elle-même qui était dans ces pages vieilles de plusieurs siècles. Du moins, elle s'y inscrivait avec une grande ferveur. Elle récitait des noms. Amodi, fille de Mahmoud. Svevika, fille de Zedfa. Elle aimait raconter cela. Oh, je la vois encore assise dehors dans la cour, tout occupée à tresser les cheveux d'une de mes sœurs. Inlassablement, elle racontait. Elle disait les caravanes marchandes de 30 000 chameaux, transportant du sel, de la laine, le mil et l'orge. Elle disait encore l'ivoire et les plumes d'autruche qui étaient rapportées du sud, comme si ce commerce avait été de son époque. Elle vivait son présent, les yeux éblouis de ce passé qu'elle-même n'avait pas connu. Et moi, je l'écoutais bouche bée, et je haïssais plus encore mon père, tôt disparu, dont nul n'évoque jamais le nom, taché d'une faute irrémédiable jamais nommée. Et ici, bien, je suis devenu celui que vous voyez devant vous. Pourquoi avez-vous désiré entrer en possession de ce manuscrit? La voix de ma mère me manquait, comment dire? J'avais tout effacé de mon passé, mais depuis quelque temps sa voix me murmurait de nouveau notre histoire. J'ai eu envie de renouer avec elle. Mais ne vous suffisait-il pas de retourner en Mauritanie? Non, non, ce n'est pas cela que je voulais. Je ne suis pas naïf. Quand on part de son pays, c'est toujours un exil. On est porté hors de soi, en même temps qu'on porte ses pas hors des frontières. Il n'y a pas de retour possible et pas de terme non plus à la nostalgie de ce pays perdu. Mais cela, je ne l'ai compris que plus tard. Revenir à l'Etchem n'aurait pas de sens, ce serait courir après les ombres cachées derrière des apparences de retrouvailles, vous comprenez? Ah oui, et vous avez pensé... Ben, excusez-moi, oui, j'ai cru qu'en m'appropriant ce feuillet du manuscrit, un peu de mon pays, de mon histoire viendrait à moi. Je comprends, et je sais pour Jason. J'ai récupéré le document. Vous voulez le voir? Vous l'avez ici? Il est chez moi, mais nous avons le temps d'y aller avant que je prenne l'avion. Écoutez, non, je ne veux pas le voir. Je ne l'ai jamais vu et jamais je n'aurais dû avoir ce désir de le posséder en propre. Vous allez le remporter, ainsi que vous l'avez décidé. Sa place est là-bas. Deux choses avant que nous nous quittions. Deux choses qui n'ont aucun rapport l'une avec l'autre. Je vous en donne ma parole. Je suis prêt à aller faire une déposition concernant le vol. C'est vous qui devez prendre la décision. Comme c'est curieux, cette folie qui s'est emparée de moi. Je suis heureux que vous ayez récupéré le document. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver à cette extrémité. On peut se tromper beaucoup dans la vie. Il était temps que je le sache. Par ailleurs, prenez cela. De Farago tend une grosse enveloppe marron à Serge. Oh, je n'achète pas votre silence. C'est le double de ce que je devais remettre à Jason, en plus des frais que je lui ai versés pour son voyage. Ah, parce que vous lui avez déjà versé quelque chose? Bien sûr, oh le menteur, ce n'est pas ce qu'il a prétendu. C'est pourtant ce qui s'est passé, j'avais tout pris en charge. Cette enveloppe, j'aimerais qu'elle soit remise au conservateur en même temps que le manuscrit, voilà. Vous savez tout. Vous me tiendrez au courant de votre décision? Quelle décision, vous voulez dire, pour une éventuelle déposition? Oui, oh, ne craignez rien, je ne vais pas m'enfuir. On ne s'enfuit jamais une deuxième fois, quand on sait l'inutilité de la fuite. Ne dites rien. Me permettez-vous de revenir vous voir avec quelqu'un après mon retour de Tichit? Oh, si vous le désirez, bien sûr, j'aurai grand plaisir à parler encore avec vous. Qui est-ce? Adrien, mon frère. Il est chercheur. Vous devriez vous entendre tous les deux. Tout son travail porte sur les problèmes de patronyme et la question de l'identité occupe presque elle seule la totalité de son existence. D'après ce que j'ai compris avec lui, mais aussi avec vous, la question est infinie et sans réponse. Sans réponse peut-être en effet, et pourtant, personne ne peut définitivement choisir d'en faire l'économie.